Vous êtes bien sur Radio La. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Alors Nicolas, on s'est rencontré par hasard chez un monsieur qui s'appelle Étienne Rollin. Et ce soir-là, entre deux cacahuètes et un petit verre, il y a une anecdote qui a fait que on a discuté et tu racontais une anecdote. Tu vas me corriger si je déforme.
Ouais.
Tu parlais d'une histoire où tu avais participé à un concours où il fallait où t'as présenté une machine, on va dire.
Oui, exact. Une machine inspirée des ondes Martenot, effectivement.
Donc c'était un concours avec les États-Unis, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est alors si je me souviens bien, c'est Margaret Gutman Competition avec mon accent anglais.
Ouais, t'as un bon accent.
Donc voilà, et j'avais comme ça pour voir un petit peu ce que ça valait. J'avais candidaté et ma grande surprise, c'est qu'il m'avait retenu pour le concours. Mais j'ai pas pu y aller parce que j'avais pas les moyens d'aller aux États-Unis. Voilà.
T'avais été sélectionné comment?
J'avais été sélectionné en présélection. Donc, ils avaient déjà fait une présentation de l'instrument et j'aurais pu donc participer à ce concours qui était sur un campus universitaire aux États-Unis.
Voilà. Où ça?
Je me rappelle plus.
D'accord.
Je sais plus où c'était.
Bref.
Exactement.
Bref. Aux États-Unis, et là, chaque personne, des gens comme toi, allait présenter leur invention, j'allais dire.
Oui, c'est ça, tout à fait, devant un jury, présenter le fonctionnement et après exécuter une performance. Voilà.
Et du coup, le fait que toi, financièrement, tu n'avais pas les moyens de te payer le billet pour aller aux États-Unis, tu ne pouvais pas défendre ton sujet.
Ouais, tout à fait.
Et du coup, ça n'a pas été présenté, quoi.
Voilà, tout à fait. Je ne suis pas allé, tout simplement. Ouais.
Alors, le premier prix, c'était quoi? C'était...
Cette année-là, c'était. Je me rappelle. C'était le Yaibar. C'était un instrument complètement fou qui se joue soit avec. Alors, il y a des cordes. C'est un peu comme un violoncelle sans caisse. Mais avec des ressorts très longs qui prenaient la vibration sur le tablier de l'instrument et qui amenaient les vibrations, enfin les ressorts étaient en fait connectés à des pots de... Ah oui, non, c'est
des
bizarre.
Pots de quoi?
Des pots de cymbales. Et de tambour, quoi. Et en fait, quand le musicien jouait de l'archer sur les cordes, en fait, on avait des sons très impressionnants, des sons de synthétiseurs expérimentaux complètement fous.
Il y a des concours comme ça en France?
J'ai pas ma connaissance. Pas ma connaissance.
C'est des Américains qui sont peut-être en Angleterre ou je sais pas.
Oui, parce que c'est un campus universitaire, donc j'imagine qu'effectivement.
Berlin, par exemple, ça bouge aussi, j'imagine.
Bah ouais, mais alors après, il y en a peut-être. Hein. Moi, j'ai pas eu vent de ça. Mais...
Alors, Nicolas,
oui.
Comment on tombe là-dedans? C'est quoi ton histoire? Comment t'es arrivé là, quoi? Comment ça s'est passé, la rencontre?
Pourquoi? Pour faire des
rencontres? Ouais.
Parce que déjà, quand j'étais petit, j'aimais bien inventer des choses. Et,
tu es un inventeur.
Ouais, on peut dire ça comme ça.
J'y retrouve tout.
On peut dire ça comme ça. Et je regarde.
T'as inventé quoi quand t'étais petit, pardon?
Alors, des engrenages, j'étais très fan des concerts de Jean-Michel Jarre à la télévision tous les ans, des trucs assez monumentaux.
Ah, c'était déjà la musique.
Ouais, déjà, j'ai bricolé plein de trucs, mais c'était avec des bouts de carton, hein, voilà.
Donc t'es tombé dedans, t'étais vraiment petit, quoi.
Ah oui, j'étais, oui. Je sais pas quand j'ai commencé, mais oui, j'étais tout petit, ouais.
Ça veut dire que très tôt aussi, tu t'es mis dans ce qui pouvait être composant électronique, etc. Enfin, comment...
Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Ça, c'est venu après. Mais non.
Le premier instrument que tu as fabriqué, que tu as inventé, c'était quoi?
Alors là, je pourrais pas répondre. Je n'en sais rien.
Tu t'en rappelles pas?
Non, je m'en rappelle pas. Mais bon, je faisais pas d'instrument de musique à l'époque. C'est venu après, mais là, comme ça, là.
Parce que à côté.
Ah si, si, si. Si, en fait. Non, mais en fait, c'est les instruments de musique, c'est pas très très vieux. Hein, ça date de quelques années. Mais j'ai commencé à jouer de la scie musicale. Et avant d'acheter ma lame sonore, enfin parce que je dis scie musicale, mais c'est plutôt une lame sonore, avant d'acheter une vraie lame sonore, j'ai bricolé une scie Egoïne pour pouvoir en faire une lame sonore, quoi. Et après, quand j'ai eu ma vraie lame sonore, j'ai commencé à coller un micro piezo dessus, à transformer le son
Ça
avec un ordinateur.
ressemble à quoi une lame sonore? C'est tout simple en fait, non?
Ah oui, une lame sonore, c'est comme une scie Egoïne. Oui, alors elle est de forme un peu différente parce qu'elle est plus ergonomique, la forme est faite pour qu'elle ait plus de tessiture. Sur une scie Egoïne, on a une octave et demie à peu près. On peut jouer l'hymne à la joie avec une scie Egoïne. Mais avec une lame sonore, on a 4 octaves, quoi. Un peu plus de 4 octaves, donc on peut jouer beaucoup plus de choses.
Tu l'as toujours?
Ouais, j'ai toujours, ouais. Ouais, elle est rangée au fond du placard.
Ouais, c'est ça.
voilà. Mais ouais, je l'ai toujours. Je peux la sortir à la rigueur.
Ah, si tu veux, allez.
Allez, je la sors.
Ah bah ça va, elle est pas loin.
Non, elle est juste dans un étui à
Ah, t'as mis
guitare.
ça dans un étui à guitare, ouais.
Bah, parce qu'un étui à Sigouine, ça n'existe pas.
Effectivement, j'imagine.
Alors.
Tu
Donc,
veux un coup de main, quoi, non?
non, ça va aller. Donc, ça, c'est ma vraie lame sonore. Je dis ma vraie parce que elle a été fabriquée par un luthier.
Ah, quand même.
Ah oui. Alors le luthier s'appelle Alexis Faucomprez et lui en fait il faisait de la musique électro et comme il aimait bien buffer avec ses potes, il se retrouvait très souvent un peu comme un con parce que quand il jouait en extérieur, il pouvait pas brancher ses synthés. Donc il se retrouvait très vite limité et il pouvait pas jouer. Et un jour, il a découvert la lame sonore et il a voulu s'en fabriquer une parce que bon, il savait pas où en acheter. Et puis, il s'est mis à, alors des amis à lui ont voulu qu'il en fabrique parce que il avait enfin voilà, c'est assez chouette. Et puis il s'est mis à travailler avec une aciérie pour laminer un acier de sa composition, etc. etc. Et maintenant, il fait des collaborations avec Émilie Simon, le Cirque du Soleil, ce genre de choses. Donc pas mal. Donc voilà, c'est. Alors ça se joue avec un archet. Et donc voilà, bon, tu peux confirmer, hein, ça ressemble à une.
Donc tu coinces une partie de, enfin la partie
Là,
du
voilà,
bas.
alors ça s'appelle la. Ça y est, j'oublie mes mots.
En tout cas, ça se passe à l'entrejambe. Enfin,
Bref, voilà,
là,
ça se coince entre les cuisses,
voilà,
donc
ok.
ça fait beaucoup travailler. Enfin, ça fait vraiment travailler les adducteurs. On se rend pas compte, mais au début, on a mal aux adducteurs. Après, il y a une façon, il y a une poignée tout au bout qui sert à tordre la lame d'une certaine façon, qui fait qu'elle peut vibrer. On peut faire aussi
Nicolas,
des. Oui?
c'est beau.
Merci.
Ça a l'air tellement, c'est tellement simple comment tu le fais. On a l'impression qu'il y a une grille, la grille, il y a rien sur la sorte,
Non,
il y
il n'y
a
a
rien de
aucun
dessiné,
repère, c'est
il y a rien
clair.
de dessiné. C'est toi qui. Et alors tu joues avec ta jambe aussi,
Ouais,
ta
en fait,
jambe.
pour faire du vibrato, parce que. J'ai un son à la 100 vibrato.
Il y a une pureté dans le son qui est impressionnante. C'est pas du tout sonorifié, c'est impressionnant, quoi.
C'est une sonorisé, pardon. Oui, ouais, c'est une sinusoïde quasi pure. Et alors, y a très peu de pièces ont été écrites dans le classique, mais on peut entendre certains groupes jouer. Et, alors la particularité de ce son, c'est que il est pas très puissant par rapport aux autres instruments, mais il va être, il va s'entendre loin. Donc, bah, quand on va se retrouver un peu dans le fond d'une scène, on va l'entendre en fait.
Ça porte.
Ouais. C'est voilà, c'est la lame sonore. Donc, j'ai commencé avec ça et puis après, j'ai voilà, j'ai sonorifié. sonorisé,
oui, sonorisé.
Avec des piezo et
alors
puis,
des piezo c'est les
c'est des micro contacts voilà, et après j'ai fait passer ça dans des logiciels informatiques avec des effets tout ça
et, voilà, là ça veut dire des heures devant l'écran à travailler
bidouiller, ouais pour trouver des des paramètres de j'ai utilisé beaucoup des distributions Linux.
C'est ce que j'allais te dire sur des ouais, logiciels
dédié,
libres.
Ouais. C'est ça, dédié au son et parce qu'on a, pour moi, il y avait tout ce qu'il me fallait. Il y avait Super Looper, qui est un logiciel qui permet de faire des pistes de loop. Enfin, je ne sais plus comment on dit, de loop.
Ouais,
enfin, pour boucler en fait des, ouais. des séquences de son. Rackarack, qui est l'équivalent d'une pédale multi-effet, mais alors monstrueuse. Hein. Il y a de quoi passer des heures dessus. Et le tout avec une qualité sonore qui n'a rien à envier à des systèmes d'exploitation commerciaux, quoi. Donc voilà. Donc j'utilisais ça et après bon.
Donc autodidacte à 300%.
Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ouais. Ouais, moi j'ai jamais pris de cours donc.
Est-ce que quand même il y avait des, t'as pu avoir l'occasion d'échanger, de rencontrer des gens qui étaient dans le même trip que toi, ou vous êtes appris les uns les autres?
Oui, alors oui, je suis dans un collectif qui s'appelle Stereotop, donc on fait de la musique expérimentale et le leitmotiv de ce collectif, c'est de démontrer aussi que ce que les gens peuvent prendre pour un art élitiste, parce que tout ce qui est musique concrète, expérimentale, tout ça, beaucoup de personnes pensent que c'est très élitiste, etc. Alors qu'en fait, on prend une boîte de conserve, on tape dessus, on l'enregistre, on ralentit le son, on fait des boucles, etc. Et on arrive à obtenir des choses très intéressante avec trois fois rien et très accessible pour tout le monde, quoi.
C'est ça que j'ai vu chez toi, c'est ce côté système D à fond, ça fait partie du truc, quoi.
Ah bah oui, oui, c'est oui, mais après, bon, je suis pas le seul hein, à faire ce genre de choses, ouais, mais effectivement, c'est le système D, quoi.
Ah, je vois, là, je croyais que c'était un luminaire, bah, je croyais que c'était un luminaire. En fait, c'est quoi? On va le faire, on va la faire sonner, et puis après, on dira ce que c'est, d'où ça vient. Donc il prend l'instrument, on va dire que c'est un instrument.
Ah oui, bah
maintenant c'est
un instrument.
Continue encore. Hein.
Il y a du sustain.
Ouais. Alors donc, c'est...
C'est une bouteille de gaz. Mais alors ça, je ne veux pas m'approprier des choses. C'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, j'ai trouvé ça en parcourant les internets. Mais effectivement, c'est une bouteille de gaz. Alors, pour faire ça, il suffit d'aller dans une station essence, de demander poliment, en faisant les yeux doux, au caissier ou à la caissière, en disant est-ce que vous auriez une vieille bouteille de gaz voilà, que je pourrais récupérer. Bon, moi, coup de bol, la caissière, elle m'a filé une bouteille de gaz. Alors, important, faut pas que ce soit une bouteille en alu. C'est vraiment la vieille bouteille de base. Après, petite opération délicate, parce que très dangereuse, il faut se mettre en extérieur, il faut virer le robinet de la bouteille, il faut la remplir complètement d'eau, parce qu'il reste toujours une poche de gaz à l'intérieur. Et une fois qu'elle est remplie d'eau et que l'eau déborde, on a chassé tout le gaz, et là, il n'y a plus aucun problème. Et après, bah, on découpe des lamelles de métal avec une. Moi, j'ai pris une disqueuse, hein, 9 euros chez Leroy Merlin, sans vouloir faire de pub. Quelques disques fins pour couper le métal. Et on découpe des lamelles. Voilà, et en fait, c'est un métallophone. Tout simplement. Mais bah, dans une bouteille de gaz, ça donne ce son. Voilà.
Super.
Ouais. Et il n'y a rien de sorcier, enfin, t'as vu, tu peux confirmer,
Je confirme,
c'est de la
c'est.
découpe. Alors, ce qui est. Bon, on peut se cantonner à faire des notes au hasard. Après, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à les accorder. Donc, bah, on commence à la disqueuse et puis après, on termine à la scie à métaux. Et bon, le principe est tout simple. Plus la lamelle de métal qui va vibrer est volumineuse en matériaux, plus ça va sonner grave. Et plus elle est petite, plus ça va sonner aigu. Voilà. Donc après, pas sortir de Saint-Cyr. Hein, voilà.
Et alors, comment est-ce que c'est quoi le déclic quand, de passer d'une lame à se dire, bon, ben là, je vais construire quelque chose, je vais fabriquer de A à Z un instrument avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi le petit.
C'est bah, l'envie de créer quelque chose. Qui sonne bien, enfin qui soit agréable, et puis la recherche sonore quoi. C'est ça en fait. J'ai commencé à faire de la recherche sonore et après j'ai pu arrêter quoi.
C'est quoi la recherche sonore?
Ah, c'est
C'est grand.
compliqué, c'est, je sais pas comment expliquer.
C'est vaste.
Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, bah, essayer
Est-ce
de
qu'on
trouver des
commence?
nouveaux sons, ouais, essayer de trouver des nouveaux sons, des choses qui font du bien à l'oreille aussi, qui de créer un univers aussi, parce que c'est important. Et voilà, c'est ça.
Créer un univers.
Ouais, un univers sonore, une sorte de paysage sonore, ouais, c'est ça.
Et alors, au niveau compétences, enfin, y a des choses, y a une infinité de choses à apprendre, j'imagine. Parce que quand je vois ce que je suis en train de voir en face de moi, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a un nom, cette machine?
Oui, c'est le Buxitron,
Bien sûr.
bien entendu. Eh oui, parce qu'à l'époque,
Tu peux répéter ce qu'on s'appelle?
alors Buxitron, parce que mon pseudo, c'est Bugsy. Et j'ai remarqué que dans les instruments électroniques un peu vieillots, on rajoutait soit alors phone ou soit tron. Voilà. Il y avait le monotron, par exemple. Bon, c'est un truc de chez Korg. Enfin, c'était ça. Ça revient souvent, donc j'ai trouvé ça amusant de dire un Buxitron quoi.
Buxy, ça veut dire quoi?
C'est mon pseudo en
C'est ton
fait,
pseudo.
voilà. Mais je dirais pas pourquoi.
Eh ben non, tu le diras
Non, je dirais pas. Il y a une raison très logique,
D'accord.
mais je le dirais
Au moins,
pas.
il y a une raison.
Voilà.
Ben écoute, est-ce que tu peux nous.
Ah oui, bien
C'est
sûr.
comment c'est né? Comment est né? Comment est né Buxitron?
Alors.
Sa date de naissance? Son état civil?
J'en sais rien parce que ça fait longtemps, je suis passé sur
Ah mais
plusieurs versions.
c'est écrit dessus, hein. Tu as mis l'étiquette en tout cas.
Oui, bien
Il y a un
sûr,
label, il y a
bien,
un,
ouais, il y a un
c'est
label, ouais,
déposé. C'est déposé.
bien entendu. Ça a commencé il y a quelques années où, alors il y a très longtemps, j'ai assisté à un concert de Yann Tiersen. Et donc à ce concert, il y avait donc les musiciens et Yann Tiersen, et il y avait aussi un orchestre symphonique qui jouait avec. C'était la patinoire de Mériadec. Et tous les instruments à un moment donné se sont tus, et une hondiste, c'est une joueuse d'onde Marteneau, je ne connaissais pas du tout cet instrument, s'est mise à jouer un solo. C'était à l'époque du fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Et c'était la valse d'Amélie aux ondes Marteneau, et il y avait juste un percussionniste qui faisait sonner des cloches comme ça. Et le son était très envoûtant et très mystérieux, avec un côté fragile. Et surtout, enfin, il faut en écouter pour comprendre ce que je vais dire, mais les ondes Marteneau, c'est un son qui est électronique, puisque le matériau sonore qu'a utilisé, c'est l'électronique. Sur une guitare, le matériau sonore, ça serait la vibration de la corde, par exemple, amplifiée par la caisse en bois. Et bien là, c'est l'électronique qui est utilisée, mais utilisée avec un mode de jeu très expressif. Et donc, on a l'impression d'entendre comme si c'était un instrument acoustique, mais qui utilise de l'électronique comme matériau sonore. Voilà, en gros.
Merci. Marteneau, tu peux nous en dire un peu plus? Marteneau, c'était qui? C'était à quelle époque?
Oui, alors c'était Maurice Marteneau. Maurice Marteneau, c'était un type qui était très ingénieux, qui était très pédagogue et qui avait une approche de la musique complètement différente de celle qu'on pouvait apprendre dans les conservatoires. Lui, il était très basé sur, enfin, c'était très basé sur l'émotion, sur la limite, c'était mettre l'enfant déjà à apprendre à jouer, enfin, à se mettre sur l'instrument, à ressentir les choses avant de commencer à apprendre les notes et les partitions. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est comme ça que moi je l'ai compris. Et d'ailleurs, il y a une méthode très célèbre qui s'appelle la méthode Marteneau, qui me semble-t-il, si je me souviens bien, est basée là-dessus.
D'accord.
Voilà. Et donc lui, il était. Donc c'était les années. Bon, il a fait la Première Guerre mondiale. Hein, et pendant la Première Guerre mondiale, il a été affecté aux transmissions radio. Puisqu'à l'époque, en fait, c'était l'apparition des lampes triodes. C'était vraiment les prémices de l'électronique. Et.
Ce qu'on appelle les fameuses lampes, quoi, quand on
Ouais,
dit
c'est ça.
un transistor à lampe, une.
Tout à fait, c'est ça, ouais. Et donc, bah, en manipulant des postes de transmission radio, il a perçu des petits sons très aigus qu'il trouvait très purs. Et il a eu l'intuition de les d'utiliser bah, ce matériau, hein, comme je disais, d'utiliser l'électronique pour faire de la musique avec. Et dès que la guerre s'est terminée, qu'il a pu rentrer chez lui, il s'est mis au travail pour fabriquer son instrument et le développer, et il n'a pas arrêté jusqu'à sa mort.
Donc
C'est-à-dire
en
que.
fait, c'était lui l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Jean-Michel Jarre, quoi. C'était lui le Jean-Michel.
Alors, c'était pas que lui. En fait, le tout premier, ça a été Lev Sergueïevitch Termen, qu'on appelle Léon Térémine.
Oui, ah le theremin, ça c'est un instrument aussi qui est assez magique.
Voilà, ouais.
Avec le où tu comment tu fais déjà?
Alors, le Térémine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a.
Excuse-moi, je t'ai coupé,
Non,
hein.
non, mais il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'analogies entre l'histoire des ondes Marteneau et l'histoire du Térémine, et entre l'histoire de on va l'appeler Léon, de Léon et de Maurice. Voilà, Léon et Maurice. Donc, parce que les deux étaient violoncellistes. Donc, l'un était professionnel, Maurice Marteneau était musicien professionnel, et l'autre était amateur, mais avait une très très bonne oreille et avait un très bon sens de la musique. Les deux ont dû manipuler des postes de transmission pendant la Première Guerre mondiale. Les deux ont eu exactement la même intuition. Sauf qu'à l'époque, Léon Térémine avait travaillé sur un instrument de mesure, parce que lui était ingénieur, il avait travaillé pour le compte de l'URSS, et il avait mis au point un instrument qui permettait de détecter des gaz dans l'air. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, les gaz oui, ont été utilisés comme armes chimiques.
Gaz moutarde.
Voilà, par exemple. Enfin,
Non.
je ne sais pas le nom des gaz, mais sans doute. Et donc cet instrument-là était composé de deux plaques de plaques de métal entre lesquelles passait l'air ambiant. Et quand l'air était chargé de gaz, ses propriétés changeaient et l'instrument le détectait et donc sonnait une alarme. Voilà, tout simplement.
Truc de malade.
Ah mais non mais Léon Thérémine a fabriqué par exemple un micro-espion qui utilisait les vibrations des vitres pour recréer le son. C'est-à-dire qu'une personne parle dans une pièce, le son fait vibrer les vitres, lui il captait à distance la vibration des vitres et son appareil retranscrivait les vibrations en son.
C'était un génie, quoi.
Ah, c'était un génie total, quoi. Et donc, il a inventé le thérémine, en fait, en utilisant des éléments de poste radio. Et le truc qui est assez dingue dans cet instrument, c'est que l'instrument se contrôle sans le toucher. C'est-à-dire qu'il y a deux antennes, une pour le volume et une pour la fréquence de son. C'est-à-dire plus ou moins grave, plus ou moins aigu. Et en approchant les mains ou en les éloignant, eh bien, on contrôle et le volume sonore et la fréquence sonore. Et donc, quand il a montré son instrument, c'était en 1919 à Lénine, automatiquement, ça a été un plébiscite parce que ça a intéressé Lénine, parce que ça montrait la suprématie, la technologie russe, etc. Et Léon Thérémine a été envoyé en Europe, aux États-Unis, pour faire des démonstrations de Thérémine. Et il se trouve que pendant que Léon Thérémine faisait ses démonstrations, Maurice Martineau finalisait son instrument. Et Maurice Martineau a assisté à la performance de Léon Thérémine. Et comme, au niveau du son, c'était très très proche, puisque ça utilisait le même principe. Pour aller un peu plus en détail, ça utilisait le principe des lampes hétérodynes. C'est-à-dire qu'à l'époque, la lampe triode ne vibrait, enfin oscillait trop vite. L'oscillation, c'est ce qui fait la fréquence du son. Donc c'est ce qui fait que le son va être grave ou aigu. Et bien là, avec une seule lampe triode, on obtenait des sons, mais que l'oreille humaine ne pouvait pas entendre, puisqu'ils étaient trop aigus. Ça pouvait faire fuir les chiens à la rigueur, mais bon. Et donc, l'idée géniale qu'a eue Léon Thérémine, mais qu'a eue aussi Maurice Martineau, et c'est ça qui est dingue, c'est que les deux ont eu la même idée sans se concerter, c'est que en utilisant donc une fréquence fixe très aiguë, donc trop aiguë pour qu'on l'entende, et une fréquence variable trop aiguë pour qu'on l'entende, mais quand on faisait la soustraction de l'une sur l'autre, eh bien on obtenait une fréquence audible variable. Et donc du coup, dans un thérémine, il y avait deux postes radio. Un poste radio dont la fréquence était fixe, et un poste radio dont la fréquence était modulable. Et dans les ondes Martineau, dans les premiers modèles qui utilisaient des lampes, c'était le même principe. Il y avait deux postes radio dans les ondes Martineau. Voilà.
Eh ben, c'est intéressant tout ça.
Et donc Maurice Martineau, quand il a assisté à cette démonstration, il a préféré se mettre en retrait, continuer à développer son instrument. Donc il a mis 10 ans, enfin il a pendant 10 ans, il a travaillé pour faire évoluer son instrument. Et ensuite, il a pu le présenter à son tour. Et quand il l'a présenté, ça a été une révolution. C'est-à-dire que de suite, des compositeurs ont commencé à composer pour cet instrument. Et c'est comme ça que on a eu Olivier Messiaen, par exemple, qui est un compositeur très connu, qui a composé des œuvres pour les ondes Martineau. On a eu André Jolivet. On a eu après on, et puis on a eu aussi par exemple Brel, Piaf, mais aussi Yann Tiersen, Radiohead, et puis la liste n'est pas exhaustive. Voilà.
Merci à toi, Nicolas. Alors, ce Buxitron,
Oui.
approchons-nous, si tu veux bien.
Alors,
Alors, je vais te
oui.
poser des petites questions comme ça.
Vas-y.
C'est toi qui as choisi le bois, ou pas? T'as
Alors,
pris ce que tu avais sous la main.
exactement,
Voilà.
voilà, ce qu'il y avait dans le
J'ai
magasin.
reconnu le système D.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le magasin?
Alors,
Voilà.
c'est quoi? C'est du contreplaqué, ça?
Ouais, c'est du contreplaqué.
Okay. En tout cas, c'est propre. Il n'y a rien à dire. C'est. Alors, tous
Hasard
ces,
d'être trop près.
tous ces. Alors, ça, c'est un interrupteur, j'imagine. CR, c'est quoi
Oui.
CR?
Alors, clavier, ouais. Ruban.
Ruban. Et oui, tu as les deux. Tu as un clavier et un ruban.
C'est ça. Alors,
Alors, pourquoi un ruban? Parce qu'on dirait plutôt un fil.
pourquoi un ruban? Parce qu'à l'époque, donc, en fait, ce fil et cette bague, c'était à la base un ruban avec une bague. À l'époque, dans les premiers modèles long de Martenot, quand la technologie qui était utilisée pour faire la synthèse sonore, c'était une technologie à lampe, ce qui permettait de faire varier la fréquence sonore, c'était un condensateur variable. Un condensateur, c'est deux parties métalliques, deux conducteurs séparés par un isolant, pour être voilà, pour
Ok.
résumer ce qu'est un condensateur. Et donc, pour obtenir un condensateur variable, Maurice Martenot a eu l'idée en fait d'utiliser un ruban qui servait d'isolant, mais ce ruban était partiellement métallisé, ce qui fait que sur la première partie, enfin comment dire, ce qui fait qu'on pouvait obtenir une graduation du caractère isolant du ruban. Le ruban était plus ou moins conducteur en fonction de là où on se trouve sur le ruban en fait. Et du coup, en fait, bon, ça, on a gardé le nom de jeu au ruban. Alors
D'accord.
après, il y en a, ils disent jeu à la bague. Alors moi, j'aime bien garder l'idée de ruban parce que comme ça rappelle un peu les origines.
Alors, j'ai envie de te dire, allons-y. Est-ce que tu peux nous faire écouter un petit peu de ruban?
Oui.
Alors, le son, il est amplifié?
Alors le son est amplifié. Là, on va dire que je vais enlever les effets du son.
Vas-y.
Enfin, parce qu'il y a une réverb à ressort, tout ça, machin. J'ai des pédales en bas où je peux mettre un délai. Je vais enlever carrément les
Vas-y,
effets.
vas-y, vas-y. Et là, par contre, tu as des repères, tu t'es créé une...
Voilà, c'est ça. Là, il y a des repères, ce qui est quand même plus facile pour.
Je te laisse...
Peut-être pour décrire, parce que
Vas-y, vas-y.
voilà. En fait, il y a une partie qu'on n'a pas parlé pour le moment, mais c'est important qu'on en parle. Il y a un clavier, mais on en parlera après. Et en face de ce clavier, parallèlement, il y a donc un fil tendu avec une bague au milieu.
Absolument.
Voilà, et donc ce fil, en fait, passe dans des poulies et passe à l'intérieur de l'instrument. Et ce qui fait que la bague, en fait, quand on se trouve devant une touche du clavier, on joue la note, en fait, qui correspond à la touche du clavier. Mais pour pouvoir un peu quitter les yeux un petit peu du clavier, etc. Sur le bois qui se trouve sous le fil, il y a des petits creux qui sont des repères en fait.
T'as fait des trous, enfin t'as gravé le bois.
Voilà. Et donc, alors je vais
T'as
jouer.
gravé tes notes.
C'est ça, voilà. Et comme je suis très mauvais en lecture de notes, je me suis permis de les noter en plus. Comme ça, tout
T'as
va bien.
raison.
Voilà. Et donc, je vais faire donc un glissando de la note la plus grave du clavier jusqu'à la note la plus aiguë. Alors, là en fait, ce qu'on entend, c'est le petit commutateur qui permet de passer du ruban au clavier. Voilà.
C'est génial.
Alors,
On a l'impression, on retombe à un son qui nous est familier de l'enfance complètement, je trouve.
c'est ça. Et donc du coup, on peut jouer. Alors, ce qui est important de parler aussi, avant de parler du clavier, parce que là, on a entendu un son. Là, si je déplace ma bague, je n'ai pas de son. Il faut que j'appuie sur une touche qui s'appelle la touche d'expression. C'est hyper important sur les ondes Martenot parce que c'est ce qui donne un peu l'âme de l'instrument. La touche d'expression, c'est, si on fait une analogie avec le violoncelle, c'est la manière dont on va appuyer l'archet sur les cordes. Et en fait, c'est une touche qui est montée sur un ressort. Donc la touche revient en position haute si on n'appuie pas dessus. Et plus on appuie dessus, et plus le volume sonore va augmenter. Un peu comme si on tournait un potentiomètre sur une enceinte, en fait. Donc du coup. Voilà. Et donc du coup, on peut jouer toutes les nuances de son. Et ce qui donne un côté très expressif entre le jeu à la bague, enfin au ruban, et la touche d'expression. Bon, voilà.
Merci à toi. Alors, c'est doux, c'est subtil, j'allais dire même c'est celtique.
Ouais. Alors, après, parce que là, j'étais sur une forme d'onde triangulaire. Normalement, j'aurais dû jouer sur une sinusoïde, mais j'ai pas fait attention au réglage. C'est un peu plus joli. Bref.
Ok, on retrouve le geste que tu avais tout à l'heure avec ta lame, avec la jambe,
Ouais, c'est
sur
ça.
le doigt.
C'est ça.
C'est-à-dire que tu fais une espèce de comment t'appelles ça,
Un vibrato,
un
c'est un
vibrato.
vibrato. Bah, c'est comme quand un violoniste ou un violoncelliste va bouger son doigt sur la corde. Là, par exemple, je fais un son. Là, je bouge mon doigt, en fait, tout simplement.
D'accord. Alors Nicolas, qu'est-ce que c'est que tous ces fils-là? Parce que entre deux morceaux de contreplaqué,
Tu veux pas
t'as...
qu'on parle du clavier, peut-être, avant?
Ah mais moi comme... Mais bien
Oui,
sûr.
parce que. Qu'on fasse dans l'ordre, parce que
J'étais
donc.
interpellé par tous ces fils. Mais vas-y, le
Oui,
clavier, t'as raison.
alors, le clavier, il a une particularité, c'est que. Enfin, deux particularités. Il est monophonique, c'est-à-dire qu'on ne peut faire qu'une seule note à la fois. On ne peut pas faire d'accord. Alors, ça peut être un inconvénient, mais par contre, il a un intérêt, ce clavier, c'est qu'il est mobile. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure avec le jeu à la bague, on peut faire un vibrato. Donc, il est monté sur ressort et on peut le bouger de gauche à droite. Ce qui fait que.
Ah, il bouge ton clavier, quoi. Ah, oui.
Voilà. C'est intéressant.
Intéressant. Et alors, question. Tu peux faire les deux en même temps?
Non, non, on peut pas faire les deux en même temps. Bon, ça aurait pas beaucoup d'intérêt de faire les
Non,
deux en même
non.
temps, mais non, c'est impossible. Et puis, de toute façon, dans l'instrument original, ça n'était pas prévu. Donc, voilà.
Bah écoute, merci à toi. Est-ce que tu composes? J'imagine tu composes, puisque en fait c'est basé sur l'impro, tout ça,
Oui,
l'improvisation.
c'est basé sur l'impro. Ouais, bon, après, je compose des trucs, mais c'est plus des idées que je reprends après dans des impros, en fait.
Alors Nicolas, est-ce que tu as une idée là maintenant? Je préférerais que tu me dises oui.
Ouais, alors, bah par exemple, je vais jouer au clavier. Alors, tu m'avais parlé, tu
Oui,
voulais
pardon,
aborder
vas-y. Oui, les
les
fils,
fils.
ces fils.
Bon, très rapidement, c'est du synthé modulaire, c'est des modules de synthé modulaire. Donc,
D'accord.
en gros, bon, on a un module oscillateur, un module mixeur. Ça, c'est un petit truc que j'ai bricolé qui permet de mixer avec.
Alors, t'as une pédale.
Voilà. Et ça me permet, voilà, plutôt que de toucher à chaque fois sur les timbres,
D'accord.
j'ai les deux timbres que j'utilise les plus, bon, le plus. Bah alors, je vais,
Comme tu sens.
ouais, si, je vais faire un truc au clavier. Alors ça, c'est un truc que j'ai composé. Alors j'espère que je vais pas me gaufrer, parce que des fois, je
Donc
me
là,
trompe,
en
hein.
fait, excuse-moi, en fait,
Oui.
là, t'as désossé tout un. T'as pris un clavier, tu l'as désossé,
Ouais, c'est ça,
c'est
ouais.
ça,
Ouais,
hein?
un clavier maître de bonne facture que j'avais qui prenait la poussière. Bon, alors.
Tu nous dis deux mots avant ou tu y vas direct?
Non, je vais y aller
Direct,
direct,
hein,
hein,
oui.
ouais.
Thank you.
un peu trompé, mais c'était dans l'idée, c'était ça.
Alors, une impression que tu es à la fois tellement décontracté, enfin concentré et à la fois décontracté, on a l'impression que tu penses à rien quand tu joues.
Si, je pense à tu des penses, trucs. Ouais, tu penses, je me dis, voilà, faut pas que je me trompe.
Faut pas que je me trompe. Bah écoute, merci. Quel instrument, quel travail. Je voudrais en fabriquer un, tu peux m'aider?
Ouais, bon après, ça m'a pris du temps quand même. Hein.
Bon, peut-être qu'il va y avoir du monde qui va vouloir taper à ta porte en disant, bon, attends, moi aussi je voudrais en fabriquer
ouais, un. Ouais, je sais pas si ça sera possible.
Non, mais sérieusement, tu. Ouais, il y a du boulot quand même.
Alors, moi, ce que je peux toujours conseiller ouais. Et puis donner les idées, quoi, parce que moi, je suis pas. J'ai pas de brevet dessus, je m'en fous, en fait. Donc, après, disons que j'ai fait ce qu'on appelle du reverse engineering. T'as vu mon accent ?
Il est bien.
C'est-à-dire que c'est partir un peu comme si on avait un gâteau, on n'a pas la recette pour le fabriquer, mais on va le goûter et on va essayer de se dire, tiens, il y a, voilà, tiens, y a du sucre, il y a des œufs, il y a du machin, et quelle quantité, etc. Et là, en fait, je suis parti de l'idée de faire des ondes Martenot, mais sans savoir comment l'inventeur avait fait, et donc de trouver moi-même mes propres solutions, ma propre recette en fait, voilà. Et finalement, il y a des choses qu'on retrouve sur les ondes Martenot, qui étaient assez logiques, donc voilà.
Merci à toi, Nicolas.
Bah, de rien. Merci à toi.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit que tu aimerais dire sur la machine, sur toi, sur ce que tu aimerais, des choses que tu recherches, je sais pas, peut-être que tu as petite annonce à faire passer sur des projets que tu as.
Alors niveau projet, non, parce que alors, enfin oui et non. Disons que avec je fais de la musique, je sais pas comment qualifier ça, mais très zen aussi. Tu as un peu des trucs un peu comme ça. Si je peux te faire peut-être un morceau.
Allez, un petit.
Allez, un petit morceau.
Allez. Merci. Personnellement, j'ai eu l'impression que j'étais en Mandchourie.
Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Donc voilà, moi, voilà, moi j'aime bien jouer des trucs comme ça et j'aimerais.
Toi, ça, c'est ton truc, quoi.
Ouais, c'est mon truc, ouais.
Ça veut dire que t'aimerais te jouer, te produire quelque part avec d'autres personnes, etc.
Ouais, par exemple, mais voilà, j'ai contacté déjà des bibliothèques, bon, j'attends des réponses, pour donner des concerts de musique zen comme ça et. Pour que les gens ressortent
Zen.
zen, voilà. Voilà.
Nicolas, je te dis une nouvelle fois merci beaucoup.
Ben, de rien.
Parce que tu en parles simplement et avec pédagogie, tu vois, enfin dans le bon sens du terme, quoi. C'est intéressant. Merci à toi.
Merci.
À très bientôt.
Merci Lionel.